Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et bienvenue pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Vous le savez, désormais, Good Luxe, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en solo et en direct entre 13h et 15h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, honneur aux boulangers dans Good Luxe. Fini la baguette. À Paris, ils sont une petite dizaine à réinventer le pain. Farine bio, céréales anciennes, four à bois, du parfum et du croustillant. Dégustation dans un instant avec Denis Durand, de l'autre boulange de Tanguy Lahaye, de Dupin et Thierry Delabre de Panadero Clandestino. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et Emmanuel, on commence donc par la table de la semaine, comme à notre habitude.
Nouvelle table de la semaine, enfin quelques semaines au compteur, baptisée l'anthocyane.
Qu'est-ce que ça veut dire l'anthocyane ?
L'anthocyane, c'est le pigment naturel qui donne la couleur du vin. Ah. Voilà, bon, c'est joli.
Et alors, vous n'avez que bu ou vous avez mangé aussi ?
Nous sommes dans le 14e arrondissement. Ouais. C'est un quartier qui, ces dernières saisons, n'est plus tellement en phase avec l'énergie gastronomique parisienne, hormis du côté de la rue Daguerre. Et donc, nous sommes au 68 de la rue Daguerre, avec un binôme. L'un en salle, l'autre en cuisine. En salle, un ancien du Lancaster, il sait y faire. La salle, très joliment décorée, peu de couverts, dans les gris tendres. Une salle très tendre, très intimiste, avec une toute petite vue sur la cuisine. Et en cuisine, alors là, un jeune chef italien qui a été formé pour partie en Italie, pour partie en France, et qui cuisine, j'allais dire, dans cette cuisine contemporaine qui est très pointue dans les cuissons, très ténue dans les produits, et peut-être qui a le sens de l'alliance, mais moins de la liaison. J'entends par là que c'est pas là qu'on va sortir les belles miches de pain pour aller saucer le plat. C'est pas grave, ça donne quand même des jolies choses. Un poulpe croustillant, un filet de Saint-Pierre au poivre de Sichuan, des raviolis de crabe au King Crab, ça c'est plutôt très réussi. Et puis un plat que l'on dit peut-être désormais déjà un plat signature, c'est un filet de veau qui était farci aux tomates confites. Là, on sent la touche italienne. Travaille avec une purée d'ail et un beurre d'herbe sur le filet. Ça, c'est très, très joli. Côté pâtisserie, là aussi, très, très bien. C'est peut-être là que la table donne son meilleur. La pâtisserie, c'est pas le chef. C'est un ancien pâtissier du AG Léal avec un biscuit streusel amer agrémenté d'une glace à l'anis vert. Ça, c'est très réussi. Là, on est dans la gourmandise, on est dans l'appétence. C'est l'instant où justement le dessert vient de tirer par la manche parce que t'as plus vraiment faim. C'est des menus un peu à rallonge et le dessert se rappelle à ton bon souvenir. Très joli pâtissier. Alors, la carte au niveau des prix, le soir, ça monte quand même de gamme. C'est d'enfer comme le lion. Environ 50, 60, 70 euros. En revanche, très, très bel effort au déjeuner. Menu à 39 euros en semaine, vin compris.
Ça s'appelle l'Anthocyane, 63 rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Une boutique pour enfants. Tartines et chocolat, ça vous dit quelque chose, hein, c'est pas tout neuf.
Bah, eh ben, ouais. Même moi je connais.
1977, tartines et chocolat, nouvelle boutique, 266 boulevard Saint-Germain, qui réinvente un petit peu la marque, en tout cas, qui fait redécouvrir la beauté et le luxe de cette marque. Elle fait partie du groupe Zannier. Et aux manettes de la déco, je vous le donne en mille, c'est Dorothée Melixon, que l'on retrouve dans beaucoup, qui a un vrai savoir-faire en matière de décoration, qu'on retrouve d'habitude beaucoup dans la restauration, dans les restaurants, dans les hôtels, etc. Elle a été quand même designer de l'année 2015 sur maisons et objets. Donc là, petite façade extérieure végétalisée, grande porte-fenêtre bleu nuit. Et alors, vous rentrez, c'est très boisé. Vous avez le parquet à chevrons en chêne et puis un jeu de mosaïque. On retrouve partout le petit emblème de la marque et le petit hérisson. Donc, vous l'avez sur la mosaïque, vous l'avez peint à la main sur une grande fresque au sous-sol. Et vous avez du coup des petits objets parce qu'on retrouve bien sûr toutes les collections. Il y a aussi une collection capsule 266 boulevard Saint-Germain pour l'ouverture de cette nouvelle boutique. Et puis une multitude d'objets, et notamment un petit masque en feutrine, en laine feutrée brodée qui reprend l'image du hérisson. Voilà, c'est so cute, comme diraient nos amis. Enfants, bébés, objets pour tartines et chocolat 266 boulevard Saint-Germain. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour.
Alors, sur le web, cette semaine, vous nous proposez justement de partager nos adresses.
Oui, alors ça, c'est grâce à l'application Mapster, qui est quelqu'un qui a lancé son application en vous regardant, Karine. Ah, faut le savoir, dans Paris est à vous à l'époque et dans Good Luxe. En fait, ça permet, si vous voulez, de pointer toutes les adresses qu'on aime, qu'on voudrait découvrir, celles des amis aussi, pourquoi pas, sur une seule et même carte virtuelle. Alors, ça paraît tout bête, mais ça peut être pratique. Par exemple, si on prévoit d'aller en vacances, eh ben, on peut se faire des petits points point comme sa zone d'intérêt. Si on a été dans des endroits qu'on aime, des restaurants, des hôtels, pas loin de chez nous, à Deauville, que sais-je.
On fait sa propre cartographie.
On fait sa propre cartographie partout dans le monde et on peut aller visionner celle des copains, voilà, s'inspirer tout simplement de ces choses-là. Ce qui est pas mal fichu, c'est qu'à chaque adresse pointée, on va, quand on clique dessus, on a toutes les infos qui apparaissent. Donc c'est une heure d'ouverture pour un musée, une adresse, enfin voilà, toutes sortes d'informations liées au lieu qu'on a pointé.
Mais Karine, c'est une muse.
C'est ce que j'ai l'impression. Oui, je crois
et
bien.
Donc on pourrait mixer par exemple les adresses que nous donnons toutes les semaines dans Good Luxe Weekend et vos adresses personnelles.
C'est bien le principe.
C'est le principe. C'est sur la même carte.
Sur la même carte ou aller voir celle des copains si on peut pas mélanger les adresses des copains.
Ah, certainement pas.
Ah bah, ça dépend lesquelles. Voilà.
Moi, je ne placerai que des adresses pour envoyer des amis dans les pires endroits.
Pour être sûr d'avoir des
adresses dans les pires endroits. C'est de la mesquinerie. Il y a un partenariat, je termine quand même avec ce petit mot. Ils ont signé là un double partenariat avec Uber et CityMapper qui permet en plus de localiser les temps de trajet entre telles et telles adresses, etc. Bon, c'est pas mal fichu, quoi.
Bien vu.
Allez, un petit coup de beauté, un petit coup de blush.
Alors, ça, c'est avec la division luxe de L'Oréal qui vient de lancer un nouveau site. Ça s'appelle mabeautéluxe.fr. Le principe, c'est qu'en fait, on a des box, soit qu'on organise nous-mêmes, soit des box toutes prêtes, avec des noms à tous. Alors, par exemple, le week-end en amoureux, la cocoon, voilà, tout ce genre de choses. Une box dédiée à une seule marque, par exemple, des box pour hommes. J'en dis un peu plus, ce sont généralement 5 petites miniatures. L'idée, c'est de les tester avant d'acheter les modèles grand format. C'est bien fichu, c'est de la com. Les grands formats, on peut les acheter depuis ce nouveau site et évidemment depuis le site existant de L'Oréal Paris. Voilà, et puis il y a des diagnostics peau en ligne, diagnostics âge, voilà.
Et oui, c'est très malin, ils se sont réappropriés le système des box qui était fait par un extérieur. Maintenant, ils font tout en interne.
Voilà, livraison gratuite, ils sont forts. Hein.
Ils sont très forts, mais parfois c'est très pratique aussi, donc voilà, on va peut-être tester. Et puis, quand les maisons, j'allais dire anciennes, pas si anciennes que ça, mais en tout cas, quand les maisons de mode traditionnelles cherchent à se réinventer.
Voilà, et ben ça donne un site qui s'appelle danielcrémieux.com. Daniel Crémieux, la maison Crémieux, prête à porter de luxe masculin. Ça fait 40 ans qu'ils existent.
C'est fort dans les années 80.
Il se réinvente avec ce nouveau site. On y trouve évidemment tout ce qu'on trouvait dans les boutiques, donc blazer, pantalon, short, maillot de bain. Il y a des petites choses en plus, des accessoires. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit set de pétanque hyper chic où quand on va jouer à Saint-Laurent-du-Var, eh ben, ça le fait grave. Voilà, c'est un beau site à découvrir. Il y a un magazine en ligne aussi pour ces messieurs qui veulent être très gentlemen et qui veulent des infos sur quel bon blazer pour eux, quel bon short cet été.
Ouais, ce genre de choses. Ils ont fait toute une collection d'années
crédées. Et Sandy
a retenu le sac à pétanque. Eh oui. Ça ne tient à rien.
Hein. Mais c'est le nouveau twist. Le détail qui tue.
C'est pas mal quand même, la pétanque en étant chic. Ça change du pastis, quoi.
Ah ben, le pastis, c'est chic.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Sandy, à la semaine prochaine. Allez, c'est vous qui dites avec modération, Emmanuel, alors que vous nous parlez du Vodka Lab.
Oui, Vodka Lab, c'est une boutique. Alors, un peu à la manière de ce qui se passe depuis quelques saisons du côté de la pâtisserie, vous savez, avec des adresses monomaniaques, totalement à sens unique, les petits choux, les macarons, les bûches, en passe des meilleurs, ça commence aussi à se constituer de ce côté, dans cette énergie-là, du côté de toutes les boutiques d'alcool, de spiritueux. Alors, bien sûr, on l'a vu avec la maison du whisky il y a quelques années, mais maintenant, on arrive à vraiment, c'est peut-être aussi dans la veine de la mixologie, de cet engouement pour les cocktails, et la première enseigne dédiée totalement à la vodka. Alors, c'est situé du côté du 11e arrondissement, au 57 de la rue Saint-Maur. Ça s'appelle Vodka Lab. Ce sont deux frères, deux Polonais d'origine, qui connaissent parfaitement, c'est leur terroir. Hein. C'est l'alcool de leur terroir, cette eau de vie qui peut être de pommes de terre, de seigle ou de blé. Mais, bien évidemment, vous allez avoir quelques-unes des plus belles bouteilles de vodka, des plus beaux flacons. Bien évidemment, polonais, c'est l'Eldorado du genre. Hein. C'est vraiment l'endroit où on fait le meilleur vodka.
Mais
également russe, quelques vodkas françaises, bien évidemment les scandinaves, norvégiennes ou suédoises. Des noms et des ans. Vous allez voir qu'il y a véritablement, et là on le redécouvre, c'est une autre vie, mais il y a vraiment une palette aromatique très forte, notamment avec les vodkas nature, et puis bien sûr, toutes ces vodkas aromatisées. Et là, croyez-moi, il y a quelques flacons. Ça part véritablement très loin. Des vodkas aromatisées à l'estragon, au piment. Certaines qui sont carrément vraiment travailler, alambiquer avec des mélanges d'épices. Non seulement l'avocat, ça fait pleurer, mais là, les vodkas aromatisés, ça pique les yeux. Mais c'est une très belle adresse et surtout, ces deux frangins, ils connaissent parfaitement leur sujet. Et c'est un vrai terroir.
Ah,
la modération peut-être, mais un terroir quand même.
Dans le 11e, effectivement, l'abus d'alcool, attention, est dangereux pour la santé tout de même. Allez, on va terminer avec l'objet de la semaine. Justement, Sandy Prenois nous en parlait un petit peu tout à l'heure avec la proposition de L'Oréal sur l'Internet. Sur Internet, moi, je vous propose une nouvelle petite marque, Philemon 1889, pour vous, messieurs. Donc, ils ont créé une marque c'est Jean-Luc Courtial et Antoine Fagot. Cosmétique un peu old school et toujours le petit côté pour vous les hommes où il faut que ce soit un peu sympa, un peu clin d'œil pour que, par exemple, là, le petit coffret, c'est le coffret le mal est fait, avec pour la douche le mal propre. Pour le déo, c'est le malsain et le sérum aussi qui s'appelle le mal effet. Bon. Il y a une version qui arrive, si je vous en parle aujourd'hui, pour la fête des pères. Bien sûr, il y aura le petit coffret de la fête des pères, coffret le malentendu autour D'accord. du rasage.
En même temps, quand on reçoit le mal propre pour sa douche, je suis pas sûr qu'on soit motivé. Ben, non, mais c'est bien fait, le packaging est marrant. Après, il faut voir si le produit est à la hauteur.
Voilà.
Mais bon, ça a du goût.
Vous testerez filemon1889.fr pour commander tout ceci. Allez, tout ça nous a mis en appétit. On va...
Allez, droit dans la miche.
Droit dans la miche, on va déguster du pain tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Une nouvelle génération d'artisans du pain aujourd'hui dans Bout de Luxe. Vous allez découvrir ce qui se fait aujourd'hui en 2016 à Paris en matière de pain grâce à Tanguy Lahaye. Bonjour.
Bonjour.
C'est du pain, 28 boulevard des Filles du Calvaire dans le 11e. Allez, je donne tout de suite les adresses, comme ça vous saurez où vous rendre. Nous sommes également en compagnie de Thierry Delabre. Bonjour.
Bonjour.
Panadero Clandestino, là c'est tout à fait clandestin, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et puis Denis Durand, bonjour.
Bonjour.
L'autre boulange dans le 11e, toujours 43 ouais. rue du Montreuil. Bon, c'est une coïncidence. Hein. Il y en a aussi ailleurs. On va en citer d'autres tout au long de cette émission. Ce qui est intéressant avec les uns et les autres, c'est que pour beaucoup, on a l'impression que c'est ce renouveau de la boulange. Il est arrivé après une reconversion. Finalement, vous avez découvert le pain ensuite, après une première carrière, parce que vous découvrez différemment et tirer de là. Mais vous, c'est exactement votre histoire.
C'est ça.
C'est les aléas de la vie. C'est l'agence événementielle qui doit fermer la porte. Et voilà, qui fait qu'un jour, vous rencontrez le pain, en fait.
Ouais, c'est arrivé avant. Le pain est arrivé dans ma vie en 2003. C'est une histoire de passion. Il a pris de la place de plus en plus à la maison. Je fais du pain à la maison pendant 14 ans même, hein, en fait, aujourd'hui.
Pour vous, pour la famille, pour les voisins, pour l'immeuble, pour
et
le quartier.
Voilà. Et de plus en plus. Et puis aujourd'hui, pour les chefs, beaucoup. Pour des épiceries aussi.
Pour les plus grands chefs, Emmanuel, vous avez sûrement déjà dégusté ce pain-là.
Si on me donne les adresses de chef, je répondrai si j'ai dégusté ou pas.
Chez Pascal Barbeau, Lastrance, Olivier Carton, chez Thibault Sombardier, Restaurant
Antoine. Ah, vous avez des belles références, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Mais justement, le fait que, puisqu'on parle un petit peu d'un acte 2, d'un an 2 de la boulangerie, comme ça s'est passé il y a quelques saisons pour la pâtisserie, avec des chefs, enfin des créateurs comme Conticini et Armé qui ont bousculé les codes, réveillé un peu la pâtisserie, on voit aujourd'hui toute la nouvelle scène qui les accompagne. C'est vrai que depuis quelques temps, sur la boulangerie, il y a un autre discours. On va essayer de rentrer aussi dans les détails de la fabrication, les céréales, les farines, les levains, le façonnage, les cuissons. Mais est-ce que c'est parce que, justement, vous n'êtes pas vraiment fils de boulanger, vous n'avez pas, dans votre première vie, votre première carrière, été boulanger? Lorsqu'on arrive comme ça dans un univers qu'on apprenne, on n'est pas plus neuf, plus iconoclaste, on peut se permettre des choses que finalement les gens plus formatés n'oseraient plus faire.
Exactement, je pense que c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a conduit, enfin, j'ai fait plusieurs années en
je
fait.
Vois, attention,
c'est mon cas. Denis, c'est pas du tout le cas, mais je discute beaucoup avec des amis boulangers qui me disent, mais la façon dont tu communiques le pain, tu communiques de l'amour. Nous, l'amour, on l'a pas appris à l'école. On a appris à faire du pain. Moi, je fais du pain, bah, vraiment, j'y mets de l'amour dedans.
La passion.
Ça fait du bien, de la passion. Mais c'est vrai que d'autres boulangers qui sont trop formatés à l'école ont du mal à comprendre.
Alors, c'est Denis Durand, on va voir que là, de l'autre boulanger.
Mais alors, vous, c'est étonnant parce que vous êtes fils de boulanger.
Oui,
Vous avez repris l'affaire familiale.
Tout
mais au
fait.
Départ, vous en êtes parti, vous en êtes éloigné.
Ah oui,
quand même.
Moi, je voulais surtout pas être boulanger. Surtout pas boulanger.
Vous étiez né dans le pétrin. Donc
voilà, je suis né dedans et j'ai dit, ah non, ça, je ne ferai jamais ça, c'est un métier de fou, on fait des heures pas possibles, on est toujours en décalage, hors de question. Et puis, j'ai fait libraire, donc vraiment rien à voir, monde de l'éducation, etc. Et quand mon père a voulu partir à la retraite, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'acheter mon pain, quoi. On mangeait du super pain chez nous.
C'est pas toujours... le papa que vous mangez.
Voilà, oui, depuis le début, quoi. Je suis né avec ça et je me suis dit, j'ai pas envie de ça. Et donc, j'ai repris le flambeau familial. Donc, j'avais travaillé avec lui en dilettante quand j'étais jeune, parce que fils de commerçant, c'est ce qu'on fait toujours.
Et dites-vous, monsieur.
Ouais, voilà. Et donc, j'ai repris le flambeau. Mais moi, j'ai pas innover, du moins si, j'ai complété, je dirais, la gamme de ce que faisait mon père, mais lui était déjà sur cette base-là, de pain bio, de pain au levain, de pain cuit au feu de bois, donc on avait vraiment tout ce côté vieillot, je dirais, de l'époque qui aujourd'hui devient moderne.
C'est aussi ça.
Sauf peut-être qu'en allant voir ailleurs, si j'y suis, est-ce qu'on n'a pas un autre regard, justement ?
Disons que moi, j'avais peut-être plus le regard commercial que n'avait pas mon père. Donc lui, il était lié à son lieu, dans le 11e, dans sa petite rue tranquille. Voilà, c'était vraiment l'artisan à proprement parler. C'est vrai que moi, je me suis expatrié. Je travaille avec des biocoop, je travaille avec des restaurants. Bon, pas aussi prestigieux que mon voisin, mais
ça dépend. Voilà. Donnez-moi les noms.
Mais, non, mais des brasseries, voilà, avec pas mal de monde. Et c'est vrai que ça a un peu changé. Voilà, ce que je faisais au départ, du moins, ce que faisait mon père au départ.
Vous aviez quelque chose. Non, parce que c'est ça aussi. On va vraiment rentrer dans votre travail, dans le pain véritablement. Mais on a aussi l'impression qu'aujourd'hui, longtemps, le boulanger, c'était le boulanger de quartier, avec toutes les vertus que ça accompagne. Aujourd'hui, si on a excès peut-être ce personnage qui avait déjà bousculé les codes à son époque dans les années 70, qui était Poilane, qui lui avait déjà donné une vision un peu plus jusqu'à verser dans l'industriel de la chose, mais qui avait ouvert l'image et le statut du boulanger. Aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement des boulangers de quartier, même si parfois vous avez pignon sur rue. Il y a toujours une dimension de fournir des restaurants, d'aller un peu plus loin, même de voyager à travers le monde pour participer comme les cuisiniers à des masterclass, à des démonstrations. Mais c'est important ça aussi aujourd'hui.
On est obligé aujourd'hui. On est obligé parce que si vous êtes petit boulanger de quartier, il y a énormément de boulangeries, des bonnes comme des mauvaises malheureusement. Et si vous expatriez pas, à un moment vous mourrez de votre belle mort parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui font des chaînes. Donc il y a Paul, etc. Mais il y en a aussi maintenant des un peu moins connus mais qui commencent à s'implanter un peu partout. Et si vous restez chez vous, bah, vous êtes avalé quoi. Donc voilà.
Ou alors il faut qu'on vienne vous chercher, voilà, Thierry Delabre. Carrément, Alain Ducasse pour Monaco est venu vous chercher.
C'est un peu plus compliqué.
Avec Ducasse, tout est toujours compliqué.
Non, j'ai été juste transmettre un protocole pour un pain un peu particulier qui est une farine un peu difficile à panifier, mais qui est la farine de Patrick Duller. Mais ouais, c'est une expérience extraordinaire. Pour revenir à ce que vous disiez, je pense que déjà, le pain est synonyme de partage. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de partager, mais même entre boulangers. Moi, j'estime que je suis pas face à deux concurrents. Aujourd'hui, je suis face à deux boulangers. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'échanger, de se dire, mais alors, tu cuis comment, toi? Et puis,
vous connaissiez?
Il y a pas longtemps.
Ah oui, je voudrais d'ailleurs signaler, il y avait un excellent article dans l'Express Style de François-Régis Gaudry qui avait rassemblé comme ça tous les trois, mais aussi d'autres, comme Maxime Bussy, Le Bricheton, comme je sais plus qui j'oubliais, mais voilà, cette nouvelle garde, il avait parlé aussi d'adresse dans le reste de la France parce qu'il n'y a pas qu'à Paris que ça bouge, et voilà, et qui retrace toute cette passion qui vous anime. Il y a peut-être un autre point commun aussi, on voit, vous avez amené un petit peu de pain, vous avez amené des miches. Et voilà, plus de baguettes. Ou alors parce qu'on est obligé, parce que quand même, c'est plus facile à acheter au quotidien. Mais on sent chez Dupin, Tanguy Lahaye, que là aussi, ce qu'on a envie de partager, justement, c'est pas forcément la baguette, c'est la miche, c'est le pain.
C'est le pain, c'est ce qu'on aime, je pense.
Mais pourquoi ?
On partage le mieux. Parce que la baguette, moi je trouve ça... Alors j'essaye de faire une bonne baguette, on essaye de la faire très bonne pour que ça plaise à nos clients. Mais c'est un petit peu l'image du pain blanc que tout le monde voit depuis toujours.
La mauvaise image du pain
blanc. La mauvaise image, malheureusement. Donc du coup...
Juste pour les novices, le pain blanc, à la différence du pain quoi ?
Je dirais du pain...
Du vrai pain.
Pain blanc, farine boostée au gluten de l'après-guerre, surpétrie pour aller plus vite, gagner du temps.
Voilà, un pain fait en 50 minutes, qui a des gros alvéoles, qui est très léger, que vous pouvez faire un nœud au bout d'une demi-heure si vous ne l'avez pas mangé tout de suite, ou alors vous assommez votre femme avec.
Qui a surtout aussi très peu de goût.
Aucun goût. C'est insipide au possible.
Peu de texture et très peu de goût.
Voilà, beaucoup de sel pour donner du goût, quoi.
Ouais, les exhausteurs, un peu comme tout le vice
de la nutrition et santé aussi avec le pain. Hein,
on va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, on continue cette idée de la miche, du pain de partage. D'ailleurs, les noms baptêmes parfois de ces miches, un des grands boulangers qui a aussi bousculé les codes, qu'on situe aussi dans le 10e rue Stoudic, a appelé
Christophe Vasseur,
le pain des copains ou le pain des amis.
Le pain des amis. On est sur des pains très longs aussi.
Excellent pain.
Alors justement, pourquoi cette idée de la miche? C'est vraiment l'idée du partage.
C'est un bonheur à faire déjà, les grosses pièces. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plus compliqué que de la baguette. Et surtout, on peut s'amuser un petit peu plus au niveau des scarifications. On peut s'amuser plus au niveau des cuissons, parce que ça cuit plus longtemps. Donc par exemple, moi j'aime bien faire des miches bien colorées. Au niveau des arômes, ça a caramélisé beaucoup plus. Et donc du coup, la croûte va dégager des arômes qui sera impossible de trouver dans une baguette, sauf dans celle qu'on ne vendra pas parce qu'elle est restée dans le four.
Voilà. Alors, messieurs,
il y a aussi autre chose, c'est que ça se conserve plus longtemps. Ah ouais. Parce que c'est vrai que la baguette, comme on dit, hein, on la prend le soir, on la mange le soir même, le lendemain, elle n'est plus mangeable normalement. Quand vous avez un pain, comme là, mes collègues ont ramené, que moi j'ai oublié, vous avez un pain qui tient sur plusieurs jours. Et donc aujourd'hui, comme mon voisin disait, c'est vrai que on veut que le pain dure, on veut de la qualité pour la santé, etc. Et si on a un pain qui se tient longtemps, ça veut dire que c'est de la bonne qualité aussi. Et donc voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on fait des miches ou des grands longs, des choses un peu plus conséquentes.
D'accord. Alors pour essayer de comprendre ce qu'est un bon pain et un pain, on va dire, contemporain, même si justement il renvoie à beaucoup de l'histoire et de la matrice du pain, on va peut-être partir du commencement, c'est-à-dire la céréale. C'est là où peut-être qu'on va revenir d'ailleurs à cette notion de bien-être et de santé du pain. Aujourd'hui, ce qui est le malheur des mauvais pains, c'est d'abord des mauvaises céréales et donc une mauvaise farine. Et souvent, s'il y a peut-être aujourd'hui des allergies ou des allergiques au gluten, c'est qu'on a mangé et qu'on mange des mauvais gluten. Alors vos céréales, vous les sélectionnez d'abord comment?
Thierry Delame, vous avez beaucoup travaillé dessus parce que finalement c'est en rencontrant Roland Feuillas à Cucugnan qui est allé rechercher le pain originaire. On a l'impression d'une affaire mystique un petit peu, mais
c'est un peu ça. Mais moi ça a été une vraie révélation. En 2012, la rencontre avec Roland à Cucugnan, la découverte de son moulin féodal, ça a été une grande claque où je me suis dit mais j'irai plus loin avec le pain, c'est sûr. Après, la route a fait que après j'ai rencontré d'autres paysans, d'autres agriculteurs. Aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des producteurs en direct. Pas de meunier, c'est pas que je suis contre les meuniers, hein, mais c'est simplement que je vais chercher la quintessence même dans le travail de tous ces agriculteurs. Donc c'est que des blés de variétés anciennes que je travaille. Donc c'est ce qu'on appelle les blés non inscrits au catalogue officiel. Wow. Alors on va pas rentrer en débat les blés modernes, etc.
Ça
m'a
fait comprendre.
Mais ouais, c'est des blés qui ont été écartés parce que en fait elles. On dit parce qu'elles n'étaient pas panifiables, mais c'est surtout parce qu'elles ont beaucoup moins de rendement que les autres. Et les blés qui ont été sélectionnés dans les blés modernes, ce sont des blés qui ont été sélectionnés parce qu'il y a beaucoup de rendement.
C'est des turbos, des boosters.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis on les a modifiés génétiquement, on les a croisés, on a fait des hybridations. Voilà. Moi, les épis de blé, ces blés-là, les épis font 1m30, 1m50.
Mais alors du coup, pardonnez-moi, mais une fois que vous avez la céréale, donc ces blés anciens, vous allez chercher directement au producteur. Après, la transformation en farine est quand même importante aussi.
Ouais,
donc.
C'est eux-mêmes qui la font.
Les petits moulins.
Ce sont des petits moulins, ce qu'on appelle les moulins de type astrier, des moulins à meule de pierre ou des moulins du Tyrol. Alors, ils n'ont pas un rendement, il faut que je les commande bien à l'avance parce qu'ils ont du boulot, quoi. Ouais.
Et c'est de l'artisanat.
Moi, je travaille avec un moulin, les moulins bourgeois, donc c'est un moulin familial, c'est deuxième ou troisième génération. Donc voilà, donc c'est directement le directeur qui est venu me voir et l'avantage, c'est que moi, je peux discuter avec lui quand je veux une nouvelle farine. Je voulais de la farine de lin bio, parce que moi, je fais essentiellement bio. Il en faisait pas. Il m'a dit, on va voir, mais vous voulez comment? On s'est expliqué ce que je voulais en faire, ce que je voulais comme résultat. Et voilà, il m'a créé ma farine bio au lin. Et il y a un vrai échange, c'est-à-dire que quand on est passé la baguette tradition bio, il est venu, il m'a dit, je vais t'envoyer un démonstrateur, vous allez discuter ensemble. On a fait vue avec le démonstrateur sur ce que je voulais faire. Et donc, c'est un peu comme toi avec tes paysans. Moi, c'est un vrai dialogue et il n'essaye pas de me refourguer un truc. Il ne me donne pas des petits kits pour mettre dans ma vitrine. Il sait que ça ne marchera pas chez moi. Donc là, on a un vrai travail sur les farines, les différents types de farines, les farines sans gluten, parce que je travaille beaucoup de pain sans gluten. Et voilà, et à chaque fois que je veux quelque chose de nouveau ou que je voudrais créer quelque chose, on a un vrai échange. Ouais.
Tanguy,
alors, on va voir que chez Dupin, là aussi, il y a plein de céréales, notamment avec le pain du cirque. On va faire d'abord une petite pause, comme ça, on va faire.
On va peut-être pouvoir un petit peu goûter.
Voilà, on va pouvoir goûter et on va faire monter l'eau à la bouche. Et après, vous nous décrirez ce pain absolument magnifique. Mais d'abord, on fait une petite pause. On se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et parce que le fournil fait sa révolution, Goodlux vous invite à casser la croûte. Ça y est, nous avons tranché le pain avec nos invités, les nouveaux rois de la boulange parisienne. Nous sommes toujours en compagnie de Tanguy Laet chez Dupin, 28 boulevard des Filles du Calvaire, de Thierry Delà, Panadero Clandestino.
Il a sorti le couteau.
Il a déjà sorti le couteau. Et de Denis Durand, l'autre boulange, c'est 43 rue de Montreuil dans le 11e arrondissement. On parlait céréales, messieurs, juste avant la pause. On voit bien aussi à la découpe qu'effectivement vos pains ne sont pas blancs, mais parce que vous utilisez des céréales spécifiques, souvent du bio, voire d'autres céréales. Et on s'est arrêté là-dessus, Tanguy. Le pain du cirque qui a fait désormais déjà, alors c'est tout nouveau chez Dupin, la renommée de la maison.
Entre autres, le pain du cirque, on a fait un mélange pour arriver à ce pain-là. On a fait un mélange de blé, de seigle et de sarrasin pour avoir. Alors c'est un équilibre à trouver entre le goût, la texture avec les farines. Et ensuite, on a rajouté des graines parce que on aime bien ça.
Ça apporte.
C'est à la mode.
Oui.
Il y a un petit goût toasté. Et donc on a mis du sésame, du tournesol et du lin. Mmh. Voilà, c'est un pain qu'on a décidé de faire en rond parce que il y a le cirque d'hiver à côté et on s'est dit que c'était un petit clin d'œil au quartier.
Pour l'avoir goûté, le fait d'ajouter les céréales, parfois c'est complètement gadget parce que justement il n'y a pas le façonnage, il n'y a pas le savoir-faire pour beaucoup de boulangers. Ici c'est très bien construit dans la texture et comme les céréales ont du goût, et c'est ce qu'on reproche beaucoup au pain aujourd'hui, il n'a plus le goût de céréales. Ici non seulement ça apporte un peu de croque, mais ça ajoute à ce côté céréalier qu'on veut avoir quand on mange un bon pain. C'est quand même ces goûts de blé ou de, pourquoi pas de lin, et qui sont perdus ces dernières années, qui reviennent, et dans le pain du cirque, ça explose en bouche. Hein. Vous êtes un peu, vous avez l'impression de vous abandonner à travers champs.
Vous êtes venu avec trois, celui...
Alors, au milieu, c'est un pain de seigle.
Pain de seigle, tout simplement.
Voilà, avec,
et c'est vrai, quand il est
du seigle de Bretagne,
craquelé comme ça, on sent, vous parliez de la cuisson tout à l'heure.
Oui.
On sent l'importance de la cuisson qu'on oublie parfois.
Complètement. La cuisson, c'est ce qui va faire notamment tous les arômes au niveau de la croûte. Au niveau de la mie aussi, mais on va dire tous les arômes qui vont ressortir avec cette odeur un peu caramel, et c'est là où les protéines qu'il y a dans les blés vont se transformer en goût, et ça permet d'avoir un peu des super pains.
Depuis que vous les avez découpés, on sent un petit peu les arômes. Alors là, il y a une particulière, Denis Durand, c'est que dans l'affaire familiale, eh bien le four il est à bois.
Oui, tout à fait. Oui, on est l'un des derniers fours à bois de Paris. On n'est plus beaucoup. Je crois qu'on est 3 ou 4. Voilà. Donc nous, on cuit dans le four à bois. Il fait 12 mètres carrés, donc c'est un beau petit bébé. Et voilà. Et donc c'est une cuisson différente. Ça reste quand même une cuisson, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser avant de pouvoir travailler dessus, parce que
ça transforme le goût.
Alors, moi, je trouve, il y a des gens qui disent non. Là, après, c'est presque l'affinité avec le palais. Je trouve que ça, on le ressent quand même un peu. Alors, il n'y a pas ce goût fumé parce qu'on cuit, hein, on le fume pas. Mais oui, la dernière fois, mon boulanger avait oublié d'ouvrir les houras qui aspirent la fumée, et toute la journée, il y a eu une odeur de fumée sur le pain. Là, pour le coup, ouais. Voilà.
C'est le roi des fours, quoi. C'est le roi des fours, le four à bois. Hein. C'est une chaleur tombante, donc c'est un four qui est éteint, qu'on enfourne à haute température, et ça cuit doucement et longtemps. On n'est pas là comme cuire une baguette en 15-20 minutes.
C'est combien de temps, par exemple, pour cuire le pain là?
Alors ça, c'est 1h30.
1h30.
Ouais.
Ah oui, on est dans des temps plus longs.
Oui, oui. Ouais.
J'estime que là, il l'a mis un peu collante. J'ai un petit peu critique sur moi-même, et ça aurait mérité encore un petit peu plus.
C'est une écologie du pain, là, vraiment. Ouais. Pas simplement dans les céréales. Et on va peut-être revenir d'un mot sur les cultures, ce que vous le disiez, on en parlait là durant la pause. On parle des céréales, mais c'est d'abord des cultures. Une bonne céréale, c'est d'abord une bonne terre, un bon terroir.
Finalement, le pain, il naît dans la terre.
Mais voilà, c'est une évidence. Mais je crois qu'il faut mieux le rappeler. Ça fait toujours de l'ambiance qu'on a carrément oublié.
Ouais. Et aujourd'hui, moi je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui reviennent de plus en plus vers le bio. Il faut quand même savoir qu'il faut 7 ans, hein. Une terre qui a été touchée par la chimie, il faut 7 ans pour la nettoyer. Donc je comprends aujourd'hui pour un agriculteur, c'est que c'est quand même 7 ans de se dire, bah, pendant 7 ans en fait, il va rien se passer sur mes terres, donc mes revenus sont... Mais il n'y a pas d'autre solution, il faut aller vers ça. Il faut absolument aller
vers ça. De toute façon, le pain, c'est d'abord de la farine. Donc c'est vrai que si on n'a pas des bons blés, on n'a pas une bonne farine. Si on n'a pas une bonne farine, on n'a pas un bon pain. C'est la chaîne.
On peut avoir un superbe four à bois.
Voilà, on peut avoir un magnifique four à bois. On peut mettre un super levain dedans. On peut prendre toutes les graines du monde. Si la farine, à la base, n'est pas bonne, on n'aura rien qui sortira. Quoi.
Justement, le levain, Thierry Delbar, j'aimerais vous demander des nouvelles de vos levains. Parce que figurez-vous qu'ils ont des petits noms. Alors, il y a Tom, Albert, Nino et Heidi. Ce sont vos 4 levains. Et alors, le plus âgé, Tom, a quand même 4 ans. On peut garder un levain 4 ans?
Ah oui.
Mais alors, justement, racontez-nous vraiment ce qu'est un levain. Et l'intimité, les grands boulangers avec leur levain, c'est quasiment leur trésor, leur pierre précieuse.
C'est quelque chose.
Alors, c'est pour ça que vous baptisez. C'est quoi d'avoir un levain part, et un levain, je crois que ça peut durer des années. Oui, et ça se partage de génération en génération.
Jean-Luc Pougeron à Paris, son levain a 70 ans. C'est le vin de son père déjà. Donc, moi j'ai un ami, son levain a 135 ans aux États-Unis.
135 ans ?
Ouais,
ce levain, c'est quoi ?
C'est simplement un mélange d'eau et de farine initialement. Et puis ça vient fermenter. C'est-à-dire qu'on vient activer de façon endogène ou exogène. Alors, soit par un apport extérieur de ferment, que ça peut être de l'eau fermentée avec des fruits, des pommes ou des raisins.
Ouais, compote de pommes.
Voilà, compote de pommes. Ou alors, ça va être simplement les levures et les bactéries qui se trouvent naturellement dans la farine et qui vont fermenter. À partir du moment où il devient vivant, on va l'entretenir sans cesse et on va le faire...
C'est un peu comme la mer d'un vinaigre.
Exactement. C'est exactement ça.
On peut, avec partir du mer, avoir ces vinaigres pendant
exactement.
Longtemps.
Et puis, on prend une partie, on l'en met dans la pâte, on ensemence la pâte avec ça, c'est le ferment. Sauf que dans le levain, la différence d'une levure, de la levure commerciale, il y a des protéases. Et ces protéases viennent manger les protéines qui se trouvent dans le blé. Et les protéines, c'est le gluten. Les protéines du blé, c'est le gluten. Donc c'est justement, en fait, donc le pain en levain, il y a déjà une sorte de prédigestion du gluten par les protéases du levain. Donc c'est pour ça qu'un pain en levain est nettement plus digeste.
Voilà, et il dure plus longtemps.
On vient, je vous disais tout à l'heure.
Non seulement, voilà, les conservations, voilà. Arômes...
Mais là, on revient encore à l'idée d'une écologie...
Ah non, mais dans le pain santé, là, en fait.
Dans la santé, mais du pain, parce qu'on est dans ce temps long, on est dans la durée.
Mais tout
quelque
à fait.
Part dans une économie, effectivement. Aujourd'hui, tout a un prix, mais lorsqu'on achète une miche, elle va durer, elle va accompagner plusieurs repas. Mais... Et là aussi, ça vaut bien cette espèce de réflexe conditionné plus ou moins malsain qu'on a avec les pains blancs et les baguettes, qu'on achète sans vraiment les consommer.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure tous les trois, c'est qu'en fait, avant on faisait un pain en 50 minutes, du moins, quand on est rapide c'est 50 minutes, quand c'est du pain ordinaire, nous, moi je sais qu'il y a certains pains, on met 8 heures pour le campagne, entre le moment où on va mettre la farine dans le pétrin et le moment où on va sortir le pain, c'est 8 heures, entre la chauffe, le temps de pause, parce que comme il disait, le levain naturel, c'est naturel, donc ça pousse à sa vitesse, donc il fait très chaud, ça pousse un peu plus vite, il fait très froid, ça pousse moins vite.
Et votre levain, oui, c'est celui de votre père?
Alors oui, c'est celui de mon père. Alors
il est planqué dans un coffre-fort tous les soirs.
Non, on le rafraîchit, on lui redonne de la vie tous les jours. Alors de temps en temps, il est un peu trop fougueux, donc on le calme.
Voilà, c'est vraiment. Votre a fait une crise d'adolescence la petite dernière là.
Ouais. Non, parce que j'estime qu'il y a vraiment, c'est comme pour moi un enfant, c'est-à-dire qu'il y a des. Quand on fait naître un levain, il y a cette phase de bébé, après de l'enfance, après l'adolescence, avant qu'il devienne adulte. Mais la phase d'adolescence, c'est un truc incroyable. C'est le troisième ou quatrième réfléchi. Il part dans tous les sens. Comme un ado. C'est non contrôlé, c'est n'importe quoi. Ça n'a absolument pas de vigueur fermentaire. Voilà, il faut qu'il passe ce stade-là et après qu'il s'établisse. Voilà.
Et on parle bien de levain et on parle de boulangerie.
Du côté de la boulangerie du pain, c'est quoi votre relation, votre rapport avec vos levains ou votre levain?
Alors moi, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. En revanche,
c'est un dur. Ça va.
C'est un levain liquide. C'est un levain liquide, puisqu'il y a du levain dur et du levain liquide. Et il est assez cool, parce qu'on tourne depuis un moment avec maintenant. Je l'ai fait pendant que j'étais en cours de boulangerie, parce que je suis pas boulanger depuis très longtemps, c'est une reconversion. Et je l'ai entretenu jusqu'à ce qu'on ouvre la boulangerie. Et maintenant, évidemment, on l'entretient tous les jours avec un mélange de plusieurs farines pour avoir un goût spécifique qu'on a réussi à trouver et qu'on veut garder.
Qui est un peu votre signature aussi.
Qui est un peu la signature et le vin, on le goûte tous les jours pour être sûr que ce soit la même chose.
Un peu
tout
comme
le temps.
Les maîtres de chez en champagne qui ont leurs cépages, on les connaît, mais cépages qui viennent d'une terre, d'une culture, et en les assemblant, ils vont devoir créer la signature de Charlotte Zick, de Moum, de Salon. Vous, c'est un peu pareil. Ce levain que vous entretenez doit toujours avoir la signature de ce que doit être le pain de la Maison du Pain, le pain de Clandestino et le pain de l'autre boulange.
Exactement.
Et d'ailleurs, en parlant de liquide, on n'a pas parlé de l'eau parce que c'est presque aussi important. Maxime Bussy, le Bricheton, qui là aussi s'est lancé, il ne pouvait pas être avec nous, mais voilà, on est tout à fait dans cet esprit-là. Il est rue de la Réunion dans le 20e arrondissement. Il dit qu'il va vraiment chercher l'eau
à la source.
Mais comme vous, à un
Je
moment.
Je l'ai fait longtemps, moi aussi.
Ouais. Dans quelle source, c'est ça le problème?
Mais parce qu'en fait, à Paris, il y a une autre source, c'est l'eau de l'Albien, en fait. Ouais. Elle est puisée à 600 mètres de profondeur. Il y a trois puits à Paris, un à la place de la Butte aux Cailles, l'autre place Lamartine, et 18e et 16e. Et moi, j'habitais à côté de la Butte aux Cailles, donc faisons le pain à la maison. J'allais tous les jours chercher le pain, l'eau à la source. et c'est un puits artésien, donc c'est un puits naturel, ça remonte, puisé à 600 mètres de profond, c'est une superbe eau.
Et aujourd'hui, vous pouvez...
Aujourd'hui, je ne peux pas, mais Maxime le fait, lui, moi je trouve ça incroyable, parce que d'aller chercher l'eau, je crois qu'il y va en vélo en plus.
Il va à vélo avec un gros bidon.
Et oui, puis il ouvre du coup sa boutique trois soirs par semaine. Voilà, c'est vraiment le fournil à l'ancienne. Et on sent, tout simplement, on parlait pour commencer de la boulangerie de quartier, mais qu'il y a cet aspect-là. Finalement, c'est bien aussi d'avoir cette boulangerie de quartier et ce pain qui rassemble, ce pain qui partage et ce pain qui rassemble.
C'est surtout que dire qu'on a encore des vrais boulangers. Parce que c'est vrai qu'à un moment...
Paysage est quand même plutôt sinistre.
Voilà, c'est ça. C'est que voilà.
Ça bouscule et que ça revient un peu dans les brancards.
À Paris, je dirais, on s'en tire plutôt pas mal. Parce que voilà, il y a une vraie réflexion. Et je pense qu'on est trois à cette table, mais il y a beaucoup de boulangers qui ont cette réflexion. C'est vrai que quand on va en province, ça devient plus compliqué. Parce qu'il y a déjà moins de boulangers. Et puis, souvent, voilà, ils font pas...
Moi, je me suis rendu compte de ça. Moi, je propose des stages de formation pour les particuliers comme des chefs. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec des chefs qu'ils ont leur restaurant en campagne et ils ont plus accès au pain. Parce qu'il n'y a plus de boulangerie en campagne. Ou alors, le boulanger est extrêmement mauvais. Parce qu'en fait, c'est un boulanger de village et puis il fait le pain, ils s'en moquent et voilà.
Et d'ailleurs, on voit de plus en plus dans certains grands restaurants, parce que c'est une économie de province, ils font leur pain eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Alors,
ils ne sont pas toujours boulangers, mais ils n'ont pas le choix que de faire leur pain eux-mêmes.
Même à Paris, il y a Daniel Baratier, qui est chef au restaurant Les Déserteurs, fait son pain depuis un mois. C'est un ancien client. Je lui ai transmis ma passion et j'ai perdu
un client.
Et
voilà.
Et c'est ça. Quand on s'appelle Les Déserteurs, en même temps, faut pas s'attendre à grand chose.
Justement, Thierry, pour terminer, vous allez pouvoir ouvrir votre adresse. Vous avez envie, parce qu'on parlait de clandestino, panadero clandestino. Vous avez fait quand même une petite opération crowdfunding,
ouais,
etc.
Ouais, le but, l'objectif, c'est pas d'ouvrir une boutique initialement. Hein, c'était vraiment d'ouvrir un fournil et puis une petite centre de formation, parce que j'adore partager cette passion. Aujourd'hui, on y réfléchit encore. On se dit, parce qu'on a du mal à trouver ce local, parce que c'est pas facile de créer un fournil à Paris. Et donc, on se dit, est-ce qu'il va falloir acheter un fonds de boulangerie? J'ai envie de vous dire que voilà, je peux
vous laisser un peu de temps.
Je laisse encore un peu
mais
de
si
temps.
Mais si aujourd'hui on veut
vraiment du pain clandestin,
on passe. C'est quoi le processus? C'est via Facebook.
Soit par Facebook, soit vous en trouvez déjà en vente dans deux épiceries chez Terra Gourmand à Levallois et la fromagerie Lilo Paris 16e au 35 avenue Bellefeuille.
Très belle
fromagerie.
Voilà, on va
terminer. La semaine prochaine, on invite. Vous nous laissez les miches, on invite les fromagers. Non
c'est une bonne idée. Et on va terminer justement là-dessus. On va redonner à chacun vos adresses. Denis Durand, l'autre boulange, c'est 43 rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement.
Et j'en ai une aussi, Place de la Nation.
Ah bah voilà, comme ça on change un peu de quartier.
Voilà, 12 Place de la Nation, donc là où il y a toutes les manifs, donc on peut pas le rater.
Ça changera du comment ça s'appelle, du hot-dog là.
Ouais, voilà, c'est ça.
Une mauvaise rue.
Et Tanguy Lahaye, Dupin, c'est 28 boulevard des Filles du Calvaire dans le 11e, donc on l'a compris, juste à côté du Cirque d'Hiver.
Exactement.
Merci infiniment à tous les soirs, avec cette odeur qui nous chatouille les narines, on va enfin pouvoir déguster vos pains magnifiques. Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous, Good Lux continue dans un instant sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, dans Good Lux, c'est l'heure de l'agenda et la chronique high-tech aujourd'hui. Mais d'abord, le livre de la semaine, le livre In My Fashion, Bettina Ballard. Alors, vous savez, on a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis dernièrement, Emmanuel, autour de ces rédactrices de mode, des grandes prêtresses de la mode. Il y a eu tout un bouquin justement sur ces grandes prêtresses. Et alors, ce bouquin, il sort chez Séguier Éditions. C'est la première traduction française, alors que c'est une très grande dame de la mode. Elle était correspondante de Vogue à Paris avant-guerre, puis à la Libération, rédactrice mode à New York dans les années 50. C'est vraiment toutes ces années-là qu'elle raconte. Il y a une petite préface de Frédéric Mitterrand, une postface de Pierre Barillet.
C'est exceptionnel, parce que tous les livres qui aujourd'hui mettent la focale pour les moquer ou pas sur ces grandes prêtresses de la mode, ce sont des essais. Mais aucune de ces grandes prêtresses n'a jamais pris vraiment la plume. Elle, Bettina Ballard, c'était une grande intelligence de la mode, une très belle plume. Il y a d'abord une intelligence d'écriture, et d'ailleurs dans la petite quatrième de couverture, une phrase très juste que quelqu'un lui a dit un jour, un ami qui était peut-être un peu perfide, lui a dit « c'est dommage que vous n'ayez pas fait de hautes études, parce que vous seriez certainement devenu un grand écrivain ». C'est vrai qu'il y a une intelligence, une vraie belle plume, et c'est une traduction pourtant, et puis surtout, vous allez découvrir tous les coulisses de la mode, et quelques-uns des grands noms, j'allais dire, en direct, notamment Balenciaga et Schiaparelli. Les deux portraits qu'elle fait de ses rencontres avec ces deux génies de la mode sont saisissants. C'est vraiment les stylistes et les fans de la mode, quand elles avaient du talent, c'est l'âge d'or de la presse féminine de mode, parce qu'effectivement, pour pouvoir raconter au public ce qu'était la mode, fallait quand même aussi avoir le génie des mots, et elles l'avaient.
Celles de 2016 vont apprécier. En tout cas, ça s'appelle In My Fashion, Bettina Ballard, et c'est aux éditions Séguier. Allez, la chronique high-tech.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour.
Bonjour Karine.
Chroniqueur chez 01net. Alors vous venez nous présenter la fine fleur des dernières sorties high-tech, évidemment haut de gamme. Nous,
la moisson
on
du mois.
Le haut. Alors, ça se passe chez Huawei pour commencer.
Oui, alors on a déjà parlé plusieurs fois de Huawei. On a plusieurs fois évoqué un peu leur montée en gamme. On rappelle que Huawei, c'est un fabricant de smartphones chinois, donc à la base avec une image de marque pas terrible. Et là, il y a une vraie montée en gamme. Premier élément qui nous permet de dire ça, pour lancer ce téléphone que j'ai en main, le P9, ça s'est passé il y a une semaine. C'était à Londres, un show digne de ceux d'Apple, et ils ont annoncé un partenariat avec deux nouvelles têtes de pont pour représenter Huawei. On a Scarlett Johansson et Henry Cavill qui est Monsieur Superman, donc quand même deux superstars du système hollywoodien qui sont maintenant partenaires de Huawei, premier indice. Et le deuxième, c'est que pour concevoir ce smartphone que j'ai en main, Huawei s'est associé à un nom mythique de la photo, Leica. Je pense que tout le monde connaît.
Colette.
Ah ouais, quand même.
Ouais, exactement. Donc Leica, entreprise allemande historique que les fans de photos très haut de gamme connaissent bien. Alors justement, j'ai failli le faire tomber. Donc la particularité de ce téléphone, regardez bien, c'est qu'il a deux lentilles à l'arrière. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a deux capteurs photo. Regardez, en plus dans un design comme ça, c'est juste une prouesse technologique de très haut niveau. Et donc Leica a accompagné Huawei dans le développement de ces deux capteurs. Il y en a un qui est couleur, assez classique, et l'autre qui est monochrome, figurez-vous. Donc monochrome,
donc
c'est noir et blanc.
Du noir et blanc.
Voilà, regardez cette très jolie photo.
On m'avait pris en photo juste avant l'émission.
Alors l'avantage d'avoir un vrai capteur en natif monochrome, c'est qu'on a un piqué d'image qui est bien plus puissant, bien plus contrasté, donc qui se rapproche un peu de ce que pouvait faire Leica à l'époque en monochrome. Et donc on a fait différents tests et c'est vrai que le rendu est vraiment tip-top. Autre objet de ce partenariat avec Leica a trois modes de rendu de pellicule assez mythiques, couleur standard, couleur douce, couleur vive. Et donc on retrouve un peu ces profils colorimétriques dans ce Huawei P9.
Donc regardez. C'est finalement un appareil photo qui fait smartphone presque.
Exactement, donc on sait que la photo, on n'a plus de compact, ça se passe avec le smartphone. Et donc la compétition se joue à ce niveau. Huawei a fait très bon produit.
C'est déjà disponible. En vente, ça coûte combien?
Alors c'est déjà en vente et ça coûte 549 €. Voilà, je vous passe tout le raffinement technologique, évidemment, il l'a.
Évidemment. Et puisqu'on est dans les choses très très fines et très travaillées, vous nous avez trouvé le portable le plus fin du monde.
Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est un acteur historique du monde du PC qui a annoncé ça, le HP Spectre, donc dans sa nouvelle version, annoncé comme le portable le plus fin du monde. Alors, il y a un effet d'annonce, bien sûr. Alors, HP parle du portable le plus fin du monde au point le plus fin. Du portable. Bref, c'est un détail, mais c'est vrai qu'il est particulièrement fin. 1,1 kg en plus, c'est rien du tout, dans un format 13,3 pouces. Donc c'est une très très belle machine, vendue 1499 €. Alors ce qui est marrant, et ce qui va intéresser les gens qui nous regardent ici, c'est que HP a aussi développé deux éditions très très limité de ce PC portable. Alors le premier est serti de diamants, figurez-vous, et le second est paré d'un châssis en or 18 carats. Alors évidemment édition très très limitée,
mais c'est pour la bonne cause parce que à Moscou, Dubaï.
Parce que HP maintenant, figurez-vous qu'HP va les mettre aux enchères au Festival de Cannes là en juin, et tous les bénéfices seront versés à la fondation Nelson Mandela, qui je le rappelle, c'est une fondation qui s'engage à faire vivre l'héritage de Mandela en faisant la promotion de sa vision de la liberté. Voilà, donc c'est pour la bonne cause.
Voilà une belle histoire, comme on l'aime. Donc avec le HP Envy X360, c'est son nom de code. Et puis alors le clou du spectacle, une robe connectée, intelligente.
Karine, là c'est vraiment pour vous. Je sais que vous devez faire sensation en soirée, mais avec ça, c'est une robe intelligente développée par deux sœurs turques, deux stylistes. Donc c'est une robe papillon. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sur cette robe, on peut trouver une quarantaine de papillons mécaniques qui, en fait, dès que un individu s'approche de vous, imaginons que je porte la robe, c'est un peu surréaliste, mais bref, vous vous approchez de moi, et bien les papillons commence à battre des ailes de plus en plus fort à mesure que vous vous approchez de moi. Et quand vous êtes tout proche, les papillons s'envolent. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces papillons sont capables de revenir après tout seuls sur l'arbre.
Ouais. Qu'est-ce que c'est poétique,
c'est tout simplement des papillons de couleur.
C'est des papillons bleus. Hein,
La robe est bleue.
Voilà, donc évidemment, c'est un modèle unique. C'est une robe développée en partenariat donc avec ces deux stylistes et Intel, qu'on ne présente plus, célèbre fabricant de puces. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de petites anecdotes autour de la conception de cette robe. Il y a l'ingénieur en chef chez Intel qui a avoué que c'était quand même très difficile de faire bosser ensemble des stylistes textiles et des ingénieurs du monde du PC. Mais ils ont quand même trouvé des phases d'accroche. Voilà, ils parlent aussi de leurs inspirations, c'est le Star Wars, c'est le cinquième élément, Matrix, Hunger Games, voilà. Donc c'est une création totalement dingue.
Mais c'est ça qui est dingue, parce que auparavant on nous parlait d'objets connectés, oui, effectivement, qui vont vous mesurer en même temps, qui vont capter, je sais pas quoi. Mmh. Mais là, on est vraiment dans création.
C'est ça. On est dans la full créativité, parce que ça n'a aucune utilité autre que cosmétique. Et c'est vrai que c'est dans la lignée, en tout cas, Intel, en faisant des partenariats comme ça qui font beaucoup de bruit, c'est pour illustrer cette tendance des wearables, donc des habits, des vêtements même pour les athlètes, qui permettent, qui sont bardés de capteurs biométriques, des vêtements intelligents. Voilà, on est un peu dans cette tendance.
On est un peu plus dans l'esthétique.
Ça peut éloigner les opportuns quand les papillons s'envolent.
C'est génial. Comme des... Bon, on attendra un petit peu. Vous lisez pour l'instant, c'est un exemplaire unique. On espère que ça va avancer de ce côté-là. Christopher Siminelli, merci infiniment à vous. Comme quoi, finalement, on peut rêver et être connecté. Allez, l'agenda de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Allez, rapidement, Emmanuel, une vente.
Le 30 avril prochain, du côté de Charcurial, vente BD. En deux temps, première partie autour de l'univers d'Hergé, pas simplement de Tintin, Hergé c'est aussi Quick et Flip, et puis deuxième partie avec des dessinateurs plus contemporains, notamment un grand hommage à Reiser. Mais l'instant fort de cette vente, c'est le chanteur Toujours Debout, alias Renaud. Vous savez que c'est un BD-phile extraordinaire, il a une collection de plus de 4000 albums, il va disperser une partie de sa collection, notamment 2000 pièces, et ça sera pour certains les temps forts de cette vente, avec notamment la dernière page, la dernière planche du sceptre de Tokar de Tintin, d'Hergé, publiée en 1939, planche originale, aquarelle bleue, gouache, encre de Chine. On dit que la mise de départ est de 600 à 800 000 euros et pourrait partir du côté du 1 million d'euros. Bon, Renaud, c'est vraiment un passionné, hein, et il est toujours dans la nostalgie, vous savez, et c'est donc qu'il a égrené comme cela et monté sa collection petit à petit avec des pièces originales, et c'est donc tout la BD, l'école belge des années 50, 60, 70, les Black Mortimer, les Tintin,
les Hergé.
Il a bon goût, le monsieur. Alors, il expliquait qu'il a dispersé tout simplement parce que il voulait pas voir ses BD vieillir et prendre la poussière.
Non, c'est pas parce qu'il avait besoin d'argent. On l'entend bien. Allez, je vous emmène à Calais pour redécouvrir, ou découvrir, si vous ne la connaissez pas, la créatrice de haute couture, Anne-Valérie H. Anne-Valérie H, donc, qui avait sa propre maison de couture et de haute couture, qui a tenté une aventure chez Comptoir des Cotonniers, voilà, qui a fait quelques créations, qui vient d'en partir, mais toujours est-il qu'elle a un vrai savoir-faire de la coupe du prototype, etc. Il n'y a pas beaucoup des Français qui ont défilé en haute couture. Et donc, en ce moment, la Cité de la Dentelle et de la Mode organise la première exposition qui lui est dédiée. C'est jusqu'au 13 novembre prochain, ça s'appelle Décrayonner. C'est pas du tout chronologique, c'est vraiment comme l'atelier avec les différentes étapes de la création, détourner la fonction, déséquilibrer les symétries, déplacer le smoking, déjouer la lumière, parce qu'elle fait beaucoup de masculin, féminin. Et on a aussi vraiment ces manières de structure, du patron, du stockman. On vous parle de tout ça, de l'atelier avec ses toiles préparatoires. Voilà, c'est une manière d'aller redécouvrir aussi cette cité de la dentelle et de la mode à Calais pour découvrir Anne-Valérie H. En attendant, on espère de la retrouver sur les podiums, sur la femmes. Création et sur les femmes plutôt que sur les stockman, même s'il y a pas mal de vidéos. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour d'autres Good Luxe. Ne zappez pas comme dirait l'autre, dans quelques instants, c'est le best-of de la semaine. À tout de suite.